d'accord d'accomplir un miracle. Et il disait qu'il le faisait au nom de Jésus de Nazareth. Alors le miracle était là, le paralysé était là, il était entré dans le temple la première fois de sa vie, puisque comme paralysé, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Il était sous le coup de malédiction dans la conception juive, donc il n'était pas question d'aller prier. Et Pierre va donc s'adresser à des juifs. Ce ne sont pas des gens à convertir. Ils connaissent l'Alliance, Yahvé, le Dieu du Sinaï, l'Exode, ils connaissent tout ça, les prophètes, les psaumes, tout, connaissent tout. Peut-être même beaucoup mieux que Pierre, qui est simplement un pécheur. Quel en manque-t-il ? Mais précisément, on l'a dit suffisamment, Jésus n'a pas été le Messie que les Juifs attendaient. N'empêche qu'il donnait des signes, il faisait des miracles qui étaient annoncés par les prophètes. Les temps messianiques seront marqués par des miracles, par la paix, par... Mais pour eux, l'obstacle, c'était justement de reconnaître ce Messie-là, un Messie qui avait souffert. Or, ce n'était pas l'image qu'on donnait du Messie, ou alors si, il y a quand même des prophètes qui avaient été persécutés, etc. Mais c'était toujours raconté avec un sentiment de victoire finale. Vous savez, le prophète était persécuté, mais à la fin, il se passait quelque chose et tout terminait bien. Sauf les chants du serviteur souffrant dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui annonçaient un juste qui allait souffrir. Qu'il n'allait pas être protégé par Dieu, au contraire, il allait être accablé. Et par reconnaissance pour ce chemin dans la souffrance, il allait pouvoir convertir les nations. Bien sûr, nous autres, ces chants du serviteur souffrant, nous les avons toujours lus en fonction de Jésus. Et notamment le quatrième chant décrit la passion presque dans le détail, 600 ans avant que cela ne se passe. Donc, nous autres, nous avons l'interprétation facile. Il faut donc non seulement connaître l'Écriture, mais il faut en avoir l'interprétation. Jésus leur ouvrit l'esprit à l'Écriture. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En plus, Pierre, lorsqu'il annonce, quand il parle de Jésus, il accable son peuple. Il ne dit pas, oh, vous savez, ne parlons plus du passé. Au contraire, il dit, c'est vous qui l'avez crucifié, vous avez demandé la libération de Barabbas, vous savez, et il retrace. Avouez quand même qu'en première homélie, c'est pour le moins audacieux. Saint-Pierre est en train de révéler à son peuple son très grand péché. Ils étaient aveuglés, ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Et c'est au nom de cela que Pierre parle à ses frères en religion. Convertissez-vous, c'est Jésus, le Messie. Il est venu accomplir toutes les prophéties. Vous ne l'avez pas compris, mais c'est ce qui s'est passé. Et mieux que cela, puisque vous êtes dans le péché, sachez que Jésus a souffert tout ça pour vous libérer du péché. Donc non seulement Pierre révèle le péché, mais il donne la clé pour en sortir. Vous êtes déjà pardonné. Imaginez qu'un médecin vous dise que vous souffrez de ceci et qu'il est incapable de vous guérir. On lui dirait, ben, tais-toi, ne dis rien. Si on dénonce, c'est aussi parce qu'on doit apporter une solution. Sinon, on multiplie le mal et ça ne sert à rien. Ça, c'était pour la première lecture, un peu comme si Pierre nous disait « Prenez conscience combien vous êtes pauvres, combien le Seigneur est venu pour chacun d'entre vous. » Et cette manière de voir les choses est quand même un peu surprenante et confirmée par Saint Jean, qui lui dit « Vous êtes des pécheurs. » C'est sûr qu'on le sait, qu'on est pécheurs. Parfait. nul n'est parfait, la sainteté c'est pour plus tard, pas trop vite, on voit ce qu'on veut dire. On a une culpabilité, on a une conscience, et Dieu sait si on insiste sur le péché, et seulement le péché, on met les gens dans la culpabilité. La culpabilité détruit la conscience, puisqu'on n'est jamais en ordre quelque part. Il y a toujours des trucs à corriger. D'autant que si on ajoute qu'on voit Dieu comme un surveillant, on voit la catastrophe. Si Jean révèle le péché, c'est en fait pour révéler le dessein bienveillant de Dieu, qui est un dessein d'amour, de pardon, de miséricorde, allant jusqu'à se faire l'un d'entre nous, pour que l'on puisse connaître la bonté de Dieu à notre égard. Le péché nous éloigne de Dieu à nos yeux, mais Dieu ne s'éloigne pas du pécheur. C'est différent. Si vous êtes, en fait, pour connaître notre péché, tenez-vous bien, il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Si vous restez au niveau de votre perception du péché, vous serez vite content. Vous direz, oh, écoute, ça arrive, oh, bon, tant pis, on n'est quand même pas des truands, des assassins, donc voilà. Ça. Je vous ai souvent parlé de ce contentement du bon chrétien. Contentement, voilà, on fera son possible. Or, quand ces gens parlent, c'est un contemplatif. Donc, ils parlent, ils définissent le péché, non pas par rapport à nous, mais par rapport à Dieu. Il dit le dessein bienveillant de Dieu est de sauver tout homme par amour, lui apporter le pardon, la bonne nouvelle qu'il peut se relever au-delà du péché que Dieu lui révèle. Je crois que c'est la semaine dernière que je vous ai dit, est-ce que vous vous êtes déjà confessé de ne pas assez aimer Dieu? Est-ce que vous êtes déjà confessé de ne pas assez aimer votre prochain? C'est rare, vous savez, quand on entend des confessions comme ça. Et pourtant, c'est ça la perception de notre péché. Ça n'a plus rien à voir avec des trucs qu'on aurait mal fait et que le surveillant nous a coincés et qu'on mérite quand même d'être un peu puni, ne serait-ce que par la culpabilité. Rien à voir avec ça. C'est par rapport au plan d'amour de Dieu. Chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu ne mets pas ta confiance en Dieu, c'est comme si tu étais dans le péché. As-tu déjà dit, je manque d'espérance parce que je ne crois pas à un avenir meilleur? Mais c'est normal, par les temps qui courent, avouez quand même que... Hein? Mais si vous êtes dans le plan de Dieu, comment allez-vous penser? Vous allez penser que Dieu permet des choses comme cela pour nous faire grandir dans la confiance à son égard. Je vous l'ai dit, le péché, c'est le chemin du cœur de Dieu. J'ai trop entendu que ce sont les vertus qui sont le chemin vers Dieu. Mais non, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que les vertus. C'est aller vers le Seigneur. Le Fils prodigue, c'est ce qu'il fait. Il va vers le Seigneur. Les pécheurs, il le sait mieux que son père et il peut donner des détails même. Mais son père ne va pas tellement écouter son passé. Il ne va pas le laisser dans la culpabilité, ça ne sert à rien. C'est précisément un péché supplémentaire, c'est se couper de Dieu. Alors que Dieu veut exactement le contraire. C'est ça l'intelligence des Écritures. Dernière chose, la résurrection. Pour nous, ça demeure une notion quand même un peu abstraite. La résurrection de Jésus, sûrement. On nous l'a raconté, tombeau ouvert, les linges rangés, des anges qui apparaissent, c'est pas. Résurrection de Jésus, les apôtres l'ont vu, l'ont touché, etc. Comment allons-nous entrer dans cette même expérience physique de la résurrection? Car l'Évangile, c'est de cela qu'il parle. Il faut toucher son corps, il faut toucher ses plaies, il faut se rendre compte. Je vais dire, il faut se rendre compte de ce qu'il a porté pour qu'on sache ce qu'on peut attendre de lui. La résurrection, c'est un corps à corps. c'est un cœur à cœur. La résurrection, c'est se laisser enseigner par le Seigneur pour connaître de mieux en mieux sa volonté et s'y ajuster avec sa grâce. Cela nous paraît peut-être très abstrait. C'est dans notre vie, frères et sœurs, qu'on doit reconnaître la présence du Seigneur. Comment est-ce qu'on fait? Ben, tu vas faire l'expérience d'un sentiment de solitude, ou d'une culpabilité, ou d'un découragement. Et c'est là que tu as besoin de la parole de Jésus, qui a dit, je n'en sais qu'une, je pourrais en citer sans doute des centaines, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Sans l'avoir compris, Jésus l'a dit à l'Église. Ah non, 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 il te le dit à toi. « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. » De ton temps, oui, mais même au-delà, je suis avec toi. Vis-tu ta vie dans cette communion, dans cette conversation avec Jésus? Vis-tu sous son regard, tout simplement? Et si c'est ça, tu as conscience que tu es fondamentalement pécheur et que tu as besoin de salut. C'est ça que Pierre vient révéler. Vous êtes des pécheurs, mais sapristi, sachez que Dieu est venu jusqu'à vous. Il a déjà tout pardonné avant que vous ne fassiez vos conneries, que nous fassions vos conneries. La bonne nouvelle, elle est là. La victoire sur le mal, ce n'est pas les efforts d'abord que nous allons faire, c'est accueillir l'action de Jésus dans notre vie. Tu es découragé, prie. Le pape nous a rappelé la prière comme étant la nourriture de la foi. Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui n'ont plus la foi ou qui ont quelques vagues connaissances ou résidus du catéchisme? Parce qu'il n'y a pas eu la prière, il n'y a pas eu la conversation, il n'y a pas eu la communion, il y a eu des idées, des valeurs. Cela, je vous en parle suffisamment pour ne pas vous embêter avec ça aujourd'hui. Mais l'intelligence des Écritures, c'est finalement pour avoir l'intelligence de notre vie. Celui qui prie connaît la volonté de Dieu. C'est une parole de Marie à Médicorée, on n'est pas obligé d'y croire, même si c'est bien utile d'y croire. Donc voilà, quand tu commenceras à remplacer tes pensées, tes émotions, tes sentiments par des paroles de Dieu, tu vas t'apercevoir qu'il est ressuscitant, qu'il est en train de fabriquer ta résurrection à travers les circonstances concrètes de ta vie. Et c'est ça la merveille. On peut être imparfait, on peut être maladroit, on peut avoir ses défauts, etc. Si tu as cette clé du Seigneur vivant, ressuscité, et que tu lui parles, il t'aidera au fur et à mesure à dépasser. Et c'est là que tu sauras que la résurrection est vraiment vraie. Que non seulement Jésus est ressuscité, mais qu'il est capable de t'insuffler de la résurrection dans ta propre vie. C'est beau, vous savez, tous ces évangiles. Jésus qui mange avec ses disciples. Donnez-moi à manger pour prouver que c'est du vrai. Pour prouver que la résurrection doit passer dans votre chair, dans les actions concrètes, dans le cœur à cœur, c'est là que la résurrection se vit. Sinon, ça reste une notion, on est content pour Jésus, quoi. On ne se rend pas compte que s'il a suivi ce chemin, s'il a voulu être le serviteur souffrant, c'est pour élever la nature humaine jusque dans sa résurrection. Amen.